RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est tous les jours sur RMC, RMC Stories, à la radio, c'est à la télé. Vous témoignez au 32-16, elle a encore avoir l'occasion d'ailleurs, parce qu'on va raconter ce qui se passe du côté de Roissy, des aéroports parisiens, qui vont être la première vitrine des touristes là pour les Jeux Olympiques. Hein, pour en avoir bien conscience, et tous les jours, les uns et les autres, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui y vont, on voit quand même des petites choses qui dérangent. On va en parler dans un instant avec notre invité, avec nos grandes gueules, Frédéric Farral, professeur d'économie, la juriste Julie Martinez et Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée. Notre invité, on l'accueille tout de suite.
RMC, les grandes gueules.
C'est Bernard de la Villardière, le présentateur d'Enquête Exclusive. Bonjour Bernard.
Bonjour, bonjour à tous.
Si vous êtes avec nous aujourd'hui dans les GG, c'est parce que vous êtes fendu d'un tweet hier sur le réseau social. Alors d'un tweet, c'est vrai que le réseau social s'appelle X maintenant, et dans lequel vous faites part de votre courroux, retour d'Équateur, comité d'accueil à Roissy par des baltringues, des traînes savates, faux taxi sans doute, qui me traite d'islamophobe et de raciste. Un policier alerté ne peut rien faire, bien sûr. La prochaine fois, ce sera le coup de couteau, point d'interrogation. Bienvenue en France.
Bernard.
Ouais, alors je dois d'abord m'excuser auprès de mon ancien prof de français parce que j'ai fait des fautes. J'ai mis islamophobe au pluriel, notamment, et raciste au pluriel. Ce qui est une faute de français.
Et bienvenue. Que s'est-il passé à Roissy, précisément?
Ouais, il se passe que ce qui se passe depuis quelques années me concernant, c'est que chaque fois que j'arrive dans ce pays, je rentre chez moi après des voyages à l'autre bout du monde. Et ben, je suis souvent agressé à Roissy, enfin verbalement bien évidemment, par des gens qui sont là, des faux taxis. Souvent, on se demande d'ailleurs ce qu'attend le Roissy Charles de Gaulle, la société, pour faire un peu le ménage. Je pense qu'il y a une police anti-taxi, faux taxi, mais ils sont pas assez nombreux, ils sont quelques dizaines. D'ailleurs, les taxis s'en plaignent, les vrais taxis s'en plaignent régulièrement. Et voilà, je passe. Ah oui, la Villardière, islamophobe, raciste, machin, etc. Et avant, c'était quand je faisais 100 mètres et j'entendais vaguement derrière moi. Et aujourd'hui, c'est ils viennent face à moi pour m'insulter. Et donc, je ne l'admets pas. Et je l'admets d'autant moins, que je rentre de pays dans lesquels j'étais en Équateur. Enfin voilà, j'ai l'impression que je prends plus de risques en France aujourd'hui que dans d'autres pays où je vais depuis des années. Et je veux ajouter à ça d'ailleurs que sur des tournages ces dernières années, deux fois, j'ai dû interrompre le tournage parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant « Monsieur de la Villardière, allez-vous-en, parce que sinon on va vous égorger ».
Mais pourquoi?
Ça s'est passé à Saint-Brieuc, ça s'est passé sur les quais de Saône à Lyon l'année dernière, et c'est un vrai scandale.
C'est des menaces de mort, direct.
Menaces de mort, direct.
Mais pourquoi on vous traite d'islamophobe ou de raciste?
Je ne sais pas de quelle idéologie ça procède, mais en tout cas, je pense que c'est une volonté en France de conquérir le territoire, d'intimider tous ceux dont on estime qu'ils sont islamophobes parce qu'ils critiquent des régimes islamistes, parce que je vais en Afghanistan, parce que je vais en Irak, parce que j'ai dénoncé les exactions de Daesh à la fois en France mais aussi à l'étranger. Et je trouve ça d'autant plus injuste que l'islam, il y a des islams, et que j'aimerais un jour produire un documentaire dans lequel on raconterait comment les musulmans du Sud s'adresse à ceux du Nord en disant « Ne basculez pas dans l'islamisme, parce que nous, l'islamisme, on a connu, on connaît, on voit ce que c'est, et on pense notamment à ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. »
Oui, les Algériens... Donc,
souvent, on a l'impression que les musulmans sont au Sud et les islamistes sont au Nord, ce qui est quand même incroyable.
Mais là, il y a un problème aussi à Roissy, c'est-à-dire que c'est un aéroport international... on est accueilli par des types qui sont des escrocs, hein, les faux taxis sont des escrocs.
Tous les aéroports du monde.
Et qui font, hein, font la loi.
Oui, non, mais particulièrement à Roissy, hein, franchement, particulièrement à Roissy. Alors, je fais le pari qu'on va faire le ménage dans les semaines qui viennent, en raison des Jeux Olympiques, etc.
Mais, et de la médiatisation du truc.
Je revenais à Orly il y a peu de temps, il n'y a pas assez de taxis, il y a des faux taxis, c'est le bazar. Je suis rentré d'un voyage que j'ai fait à Lisbonne, on était plusieurs dans un même taxi parce qu'il n'y avait pas assez de taxis et on devait attendre. C'était comme en plus Orly ferme à 23h30, donc puisqu'il n'y a plus d'avion possible après 23h30, etc.
C'était un bazar
innommable avec insuffisamment de taxis. C'est absolument catastrophique. Et bientôt il y a ce qu'on appelle les Jeux quoi.
Les Jeux Olympiques.
Juste Julie.
Ouais, moi monsieur, je suis sincèrement navrée qu'on vous insulte. Je trouve ça absolument inacceptable et je trouve également regrettable finalement que ces individus aient pas fait preuve de plus d'intelligence peut-être pour vous donner un feedback sur parfois le manque de nuances dont vous faites preuve dans certains de vos reportages qui sont en fait des tribunes à charge sur certains sujets qui polarisent la société française. ou par exemple à quel point ils ont pu être blessés par certains de vos reportages. Moi, j'ai grandi à Sarcelles et je me rappelle en 2016 ou 2017, je sais plus, il faudrait que je retrouve, un reportage que vous aviez fait en Seine-Saint-Denis qui m'avait profondément, mais profondément blessée parce que vous l'aviez pris d'un prisme qui était tellement dramatique que j'étais sortie de ce reportage en me disant mais moi je connais ce territoire-là et ce n'est pas que ça. Donc je regrette qu'on vous insulte, je pense qu'ils auraient pu au moins vous partager ce que moi je vous partage aujourd'hui. Et j'ai une petite question pour vous, au regard de votre qualité de journaliste, est-ce que vous pourriez pas la mettre à bon escient, c'est-à-dire faire finalement des reportages qui mettent aussi en valeur les talents, la richesse de certains de nos territoires fragilisés? Parce que moi, c'est vrai que certains de vos reportages m'ont profondément choquée. Alors, je dis pas que vous récoltez ce que vous avez semé parce que ce n'est pas juste et on n'a pas le droit d'être insulté dans notre pays, mais il y a quand même une polarisation que vous avez, à mon avis, créée sur certains de vos reportages.
Alors, Enquête Exclusive, comme vous le savez, c'était une émission d'enquête qui a forcément mauvais esprit. Là, je vais traiter d'un sujet sur l'agromafia en Sicile, mais aussi dans la région de Naples, à cause de la Camorra, de Cosa Nostra, etc., dimanche prochain. Je pense que le lendemain, les Italiens qui vivent en France ne vont pas m'arrêter dans la rue en me disant « Mais vous détestez mon pays, c'est épouvantable, vous êtes italophobe !» Et concernant Sarcelles, il y a un garçon qui s'appelle François Pipponi, qui a été maire de Sarcelles, qui à l'époque disait circuler, il n'y a rien à voir, et qui aujourd'hui dénonce un certain nombre de choses qui se sont passées dans la commune qu'il a gérée pendant très longtemps. Quand vous parlez de ce reportage sur la Seine-Saint-Denis, je crois que vous avez une mémoire sélective, parce que dans ce reportage, justement, on a beaucoup insisté sur les start-upers, sur les gens de Seine-Saint-Denis, etc.
Vous parliez d'immigration comme d'un triste record. Enfin, il y avait tout un fort.
En l'occurrence, quand on traite des banlieues, on fait exactement très attention, justement, par rapport à d'autres sujets.
Ah bah, ça m'inquiète encore.
À être un peu équilibré.
Okay.
Et Sarcelles, je vous rappelle qu'il y a une communauté juive qui a quitté Sarcelles. Et ça, j'aimerais faire un film.
Qui vit encore à Sarcelles. J'aimerais que vous rencontriez Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Il y a beaucoup de choses à vous dire sur le sujet.
Raconter comment Sarcelles a dérivé et comment la communauté juive de Sarcelles a dû quitter Sarcelles.
Pourquoi est-ce que vous employez l'expression traîne savate, baltringue, hier à l'aéroport?
Parce que c'est le cas. Parce que c'est des gens pour lesquels j'ai aucune estime. Se conduire de cette manière, voilà. Enfin,
Et vous dites faux taxi.
Oui. Oui, il faut taxi, enfin sans doute, j'en sais rien.
C'est pas parce qu'on n'a pas une particule nobiliaire qu'on a un traîne savate, quoi.
Traîne savate, attendez, mon père m'a traité de traîne savate, j'ai été ascensier, j'ai redoublé ma première année de lettres modernes. Mon père me traitait de traîne savate, donc voilà.
Je suis plutôt client de vos reportages, enfin, en fonction de la thématique, bien sûr. Je les suis en replay systématiquement pour voir quelle est la thématique. Et souvent, quand la thématique m'attire, je le regarde et je suis plutôt bon client. Je pense que, en ayant autant voyagé que vous, on peut pas être foncièrement raciste, c'est pas possible, parce qu'on a forcément une vision mondialiste.
Je suis le journaliste en France qui a été le plus au chevet des victimes musulmanes, à travers le monde. Et notamment le premier à avoir été dans les camps Rohingyas, à la fois en Birmanie et au Bangladesh.
Donc ça, j'en suis intimement convaincu. Par contre, je suis aussi intimement convaincu que, et je tenais à vous rassurer, vous avez une image raciste, et pas seulement à Roissy, quoi. Dans beaucoup de dans le pays, au
c'est ça que je dénonce.
C'est pas Schoenbanche, c'est les traînes savates, c'est des gens.
C'est ça que je dénonce.
Interrogez-vous pourquoi vous traînez cette image, quoi. À un moment donné, pourquoi il y a peut-être une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que j'ai cette image?
Je trouve qu'elle est totalement injuste et infondée, d'autant quand j'ai eu parallèlement mon parcours de journaliste, un parcours d'humanitaire, où j'ai été très investi dans les ONG. Comme Solidarité Internationale, il y a une vingtaine d'années, etc. Et Solidarité Internationale se préoccupait du sort des habitants de Kaboul. Et on a refait, avec l'aide de la Banque Mondiale, j'étais président de l'association, la moitié du réseau d'eau et d'égout de Kaboul, ce qu'aucune ONG ne voulait faire. Et nos volontaires sur place, avec la population locale, ont remis en place tout ça. On avait construit une briqueterie, une savonnerie. Et c'est en tant que président de Solidarité Internationale que j'ai été en Afghanistan la première fois.
Et dans le même temps, vous trouvez des circonstances atténuantes à Éric Zemmour, quoi?
Pas du tout.
Peut-être un oxymore.
Pas du tout. Pourquoi vous dites ça?
Enfin, moi, j'ai un peu fouillé. Vous avez pris des positions sur Éric Zemmour qui semble dire.
Pas du tout. Je n'ai pas pris de position
sur Éric Zemmour.
Sans dire
que c'est utile, mais
je n'ai jamais parlé d'Éric Zemmour. Je n'ai jamais parlé d'Éric Zemmour et je ne fais pas de politique.
Mais vous avez l'impression d'être victime d'un malentendu, alors?
Oui, mais encore une fois, d'une toute petite partie des musulmans de France. Une toute petite partie, encore une fois. Parce que l'autre jour, par exemple, je rencontrais un Tunisien dans la rue. On avait fait un film sur la Tunisie de Kaïd Sayed. Qui est devenu un régime extrêmement autoritaire, où je n'ai pas pu aller tourner. D'ailleurs, je n'ai pas eu de visa. On a envoyé une équipe. Et il y a un Tunisien dans la rue qui m'a arrêté. On a pris un café ensemble. Il m'a dit, ah oui, j'ai entendu parler de votre émission avant-hier soir, etc. C'était très anti-tunisien, etc. Et donc, j'ai dit, on va prendre un café et on s'est quitté bons amis.
Mais moi, le problème, c'est que, enfin, après, on aime ou pas le travail d'un journaliste, mais on peut pas être dans un pays où certaines personnes font la loi dans la rue, insultent et puis surtout menacent de mort. Enfin, je suis désolé quand tu veux.
C'est inacceptable.
Oui, mais on essaie. Oui, mais vous comprenez peut-être qu'ils ont raison, peut-être que.
Oui, bien sûr.
Moi,
c'est une volonté.
Moi, je pense que le 8 mai, les gens n'en peuvent plus de ce 8 mai. Je suis désolé quand tu menaces de mort quelqu'un dans la rue. Tu dois être interpellé. Je ne comprends même pas que la police n'intervienne pas. Parce que la police était là.
Oui. Il y avait un pauvre policier qui ne pouvait pas faire grand-chose.
Oui, mais enfin,
et je vous rappelle d'ailleurs que j'ai été en 2016, j'ai été mis sous protection pendant 5-6 mois.
Il y a plein de journalistes qui le sont sous protection policière.
Parce que Larossi Abala, qui a tué deux policiers à Marnier-en-Ville en 2016, voilà, il est mort après. Mais il y avait une liste de journalistes qui étaient menacés de mort. Gilles Kepel également. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve à l'époque, m'a appelé en disant, il faut que vous acceptiez cette protection que je refusais a priori. Et j'ai voulu aussi me porter partie civile, parce qu'il se trouve qu'il y avait des complices de Larossi Abala. L'un d'entre eux a été jugé en octobre 2023. Figurez-vous que j'ai voulu me porter partie civile pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour l'enquête, etc. Et ça m'a été refusé par la Cour d'assises de Paris. C'est-à-dire que j'ai d'un côté le ministère de l'Intérieur qui me dit « Vous êtes en danger, on vous met sous protection, d'autorité pratiquement. » Et de l'autre, la Cour d'assises de Paris qui estime que je ne suis pas une victime. Quand même, c'est quand même un système bizarre.
Mais là, il y avait la police à côté, à Roissy ?
À Roissy, il y avait un policier qui était là et que j'ai appelé à la rescousse. Oui, bien sûr, il a entendu.
Ça veut dire voilà, quoi, appeler à la rescousse, vous lui avez dit s'il vous plaît.
À un moment, ce type de menace était désagréable. J'ai voulu d'ailleurs lui dire, écoutez, assumez vos accusations. Donc j'ai sorti mon portable, comme ils le font souvent avec moi dans la rue, etc. Et puis il a commencé à s'énerver, on a failli en venir aux mains. Je me suis dit, je vais pas m'énerver, je vais aller chercher un policier. Il se trouvait qu'il y en avait un qui était pas loin, qui est venu, qui était un peu désolé, mais bon, au milieu de tout ça, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille. Et que, voilà.
Mais là, le problème...
J'ai dit à ce policier, Il m'a accusé de racisme. Je veux l'emmener au commissariat. Il m'a dit non, mais monsieur, etc.
Il aurait dû être placé en garde vue. Pardon, mais je suis désolé.
J'en sais rien.
Ici, quand quelqu'un menace de mort une autre personne.
Hier, c'était pas des menaces de mort.
Juste, vous avez dit que vous n'avez jamais parlé d'Éric Zemmour. Vous avez déclaré en novembre 21. Je ne partage pas la détestation
et de mise envers lui, et je suis contre sa diabolisation. Vous avez dit que vous parlez jamais de politique et vous avez déclaré toujours en novembre 2021, je suis plutôt de droite, à la fois très anticommuniste, très tiers-mondiste et très libéral.
Bah oui, et alors ?
Non, mais simplement, vous dites.
Oui, tout à fait. Non, mais bon.
Voilà, j'essaie de sourcer un peu ce que je vous dis.
Oui, peut-être, mais bon. Je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour.
C'est peut-être pas ce qui te fait.
Comme je suis contre la diabolisation de toutes les organisations politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc là-dessus, oui, je suis contre la diabolisation
d'Éric Farrel,
d'Éric Zemmour.
Vous comprenez qu'on a une vision du monde comme la vôtre.
Mais quelle vision du monde ? Je vous dis que je suis tiers-mondiste. C'est pour ça que je disais que j'ai plein de contradictions. C'est-à-dire que je pense, par exemple, l'aide publique au développement.
J'ai dit
que je suis contre la diabolisation d'Éric Zemmour. C'est pas pour autant que je suis contre pour Éric Zemmour.
J'ai même fait un doc là-dessus
en disant à quel point il n'était pas fait pour la présidentielle.
Il faut éviter, à mon avis, la confusion entre deux choses. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord sur ce qui vous arrive. Il faut s'en tenir là. C'est-à-dire le fait que sur la voie publique, aucun individu.
C'est interdit. Bien sûr, il
est d'autant plus inquiétant, même si ce n'était qu'un membre des forces de l'ordre, que finalement vous retrouviez dans une situation où vous êtes seul, etc. Oui. Et de l'autre côté, et c'est là où je te rejoins, il y a un débat. On peut discuter de votre vision, des ambiguïtés qu'on pourrait vous prêter, c'est autre chose. Mais il ne faut surtout pas, à mon avis, votre position, qui peut faire l'objet de débat, puisse donner le sentiment même vague ou diffus que cela pourrait justifier un coup de sang d'un individu.
Sinon, dans ce cas-là, on va justifier la personne qui va gifler Emmanuel Macron.
Bien sûr, c'est inacceptable. Moi, je vais
plus loin. C'est la systémisation de ce genre d'attaque sur la voie publique. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Oui, je fais des choses contre les écolos radicaux, j'ai fait des docs contre les éoliennes. j'ai pas dans la rue des gens qui viennent m'engueuler bien parce sûr. Que j'ai fait un doc anti-éolienne ou parce que j'ai fait un doc sur l'extrémisme écologiste. Encore, vous voyez ce que je veux dire?
Il faut que ça s'arrête.
Donc là, je pense,
ça peut mal se passer.
Je pense malgré tout que c'est une stratégie de conquête du territoire et d'intimidation. Ce sont pas des faits isolés. Ça pouvait être des faits isolés il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet à travers les réseaux sociaux, etc. Ce sont des gens qui se constituent en groupe et qui ont décidé de vous intimider. Et donc, je suis là pour leur dire qu'ils ne me font pas peur.
Non, moi non plus.
Je
ne
pense pas qu'ils vous attendaient la sortie de l'avion.
Vous savez qu'il y a
des... par hasard. Et voilà.
J'ai fait un doc sur la Tunisie, l'Égypte du général Al-Sisi il y a plus d'un an. J'ai voulu aller en touriste en décembre en Égypte. Je voulais aller faire la plongée en mer Rouge. Eh ben, j'ai été arrêté à l'aéroport et remis dans l'avion.
Ah oui?
Ouais.
Comment ça se passe dans ces cas-là quand on est arrêté à l'aéroport par
l'Égypte? J'étais avec ma femme, donc j'ai pas pu trop m'énerver non plus. Puis on était samedi, évidemment, j'ai voulu contacter l'ambassade de France. Il s'est rien passé parce qu'ils étaient sans doute en vacances ou en week-end. Et c'était le week-end, c'était un samedi. On m'a mis de côté. J'ai acheté mon visa et puis au passeport, mon passeport a bipé. Le gars m'a dit vous mettez sur le côté et très rapidement j'ai eu 5-6 personnes autour de moi. Ils ont essayé de joindre le ministère de l'Intérieur parce que c'était pas au Caire mais c'était une ville sur la mer Rouge et non pas Sharm el-Cheikh. Et ils m'ont mis de côté. Puis à un moment j'ai voulu m'énerver, on m'a passé un type du ministère de l'Intérieur, etc. Il voulait vérifier que c'était moi. Et moi, j'ai dit, je viens pour faire du tourisme. Et alors, j'ai commencé à engueuler le type au bout du téléphone en disant, écoutez, laissez-moi passer, je suis avec ma femme, je viens pour des vacances, etc. Et là, il y a un gars très gentil qui m'a dit, vous énervez pas, parce que sinon, ils sont capables de vous garder là, à l'aéroport, pendant 5-6 jours. Vous avez une opportunité qu'on vous remette dans l'avion, celui qui vous a amené. Et donc, il vaut mieux que vous le preniez.
Et depuis, vous avez essayé de savoir pourquoi?
Oui, j'ai évidemment contacté l'ambassade ici, l'ambassade d'Égypte. Qui m'a dit que le pays avait le droit, tous les pays ont le droit
d'accueillir
ou pas.
Donc vous êtes persona non grata depuis ce reportage sur l'Égypte.
Comme je suis persona non grata en Algérie, on a fait un film sur l'Algérie, on a tourné avec des équipes sur place extrêmement courageuses. J'ai voulu y aller, j'ai pas pu y aller. En revanche, quelques semaines après, j'ai été convoqué au commissariat de Neuilly et on m'a tendu une commission rogatoire internationale d'un avocat, d'un juge algérien qui voulait me traduire devant les tribunaux en Algérie. Évidemment, je m'y suis pas rendu.
Il y a une convocation.
La Tunisie, on a fait un doc sur la Tunisie. Bon, je me suis fait évidemment éreinter par une certaine partie de la presse tunisienne. C'était un film sur la Tunisie de Saïd Kaïe, comment il s'appelle-t-il déjà?
Le président actuel, oui.
Le président tunisien, j'ai donné son nom tout à l'heure, Kaïs Sayed. Et j'ai pas pu aller en Tunisie, malheureusement.
Pour les vacances, vous commencez à avoir une zone limitée, quoi.
Mais là, je vais au Maroc bientôt. J'ai travaillé à Médine une époque. Ma fille est née au Maroc, etc. Parce que j'adore ce pays. J'espère qu'ils m'accueilleront quand même.
Ouais. Bernard Lavillardière reste avec nous. Agressé à Roissy. Bernard Lavillardière d'enquête exclusive. Si vous avez des questions à lui poser, c'est au 32-16 que ça se passe.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
GG les grandes gueules aujourd'hui avec Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Julie Martinez, juriste, Frédéric Farah, professeur d'économie, et on a fait venir dans les grandes gueules Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière qui est le présentateur d'enquête exclusive qui s'est fait
agresser physiquement,
ouais, bien sûr,
verbalement.
Et je mets des guillemets à Roissy. C'est David qui veut en parler avec nous. Bonjour David.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour, vous voulez réagir?
Salut.
Pourquoi David?
Eh ben moi je suis là pour défendre ce journaliste qui a vraiment du courage, quoi. Parce que je m'aperçois, on vit dans un pays qu'on dit la vérité, même si elle n'est pas élégante, hein, je comprends bien, mais on est taxé de raciste, tout simplement, quoi. Moi, j'habite dans une grande métropole, ben, vous m'excuserez, mais je reconnais plus mon pays, quoi. Je reconnais plus mon pays, tout simplement. Alors, c'est peut-être pas élégant à dire, mais c'est une vérité, quoi. Donc voilà, il y a une immigration débordante, et encore si c'est une immigration qui apporterait quelque chose de positif au pays, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas, je suis désolé à le dire. Alors on parle toujours d'une minorité, hein. Je comprends bien, hein. Pour moi c'est une minorité, mais on en fait quoi de cette minorité? À un moment donné, il faut en faire quelque chose, quoi, parce qu'il y a des gens qui se tiennent très bien, hein, mais voilà, ils sont pris par cette minorité et on les manque du doigt alors qu'il y a des gens qui se tiennent bien. Mais on en fait quoi de cette minorité? Je vous pose la question.
Mourad, tu voulais réagir?
Oui, quand vous dites que l'immigration qui n'apporte rien au pays, je ne vais pas vous rappeler tout ce que l'immigration a apporté au pays. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a une minorité qui est stigmatisé et par moments à juste titre, mais éviter de lier que la problématique de cette minorité est liée à une origine et non à un parcours de vie ou un parcours social ou un parcours culturel ou un comportement. Ça s'appelle du racisme. Alors, on peut être d'accord sur effectivement sur ces gens qui ont ce parcours de vie, ça pose un problème, certains, oui, bien sûr, mais on pouvait pas nier qu'à côté, il y a une immigration. Je veux dire, la culture urbaine aujourd'hui dans ce pays, elle a de la culture française et elle s'est développée. Il y a plein, je veux pas vous montrer dans le cinéma, dans des tas de domaines, tout ce que ces gens. Moi, je m'appelle Mourad Boudjelal. Je pense que j'ai créé des centaines, peut-être même des milliers d'emplois. J'ai participé à la richesse du pays.
Il y a un besoin d'immigration en France.
Vous pouvez pas. Alors, qui est une minorité?
La main d'œuvre immigrée, c'est 10%.
Vous pouvez pas dire que l'immigration n'a rien apporté à ce pays.
Alors, Monsieur Boudjelal, alors j'ai un souci avec vous parce que moi, je suis vraiment habitué des grandes gueules. Je vous explique juste quelque chose.
Ben, il n'y en avait qu'un, c'est déjà une bonne nouvelle.
D'accord, ok. Donc, moi, je suis les grandes gueules et vous êtes intervenu une fois juste avant le drame de Crépol. Ça vous parle, le drame de Crépol? Vous rappelez un petit peu de ce fameux tournant. Bon, vous avez dit devant les deux journalistes qui vous entourent, là, soi-disant des grandes gueules, hein, vous avez dit que le racisme anti-blanc n'existait pas. Et après, vous me donnez des leçons, il ne faut pas généraliser, des leçons de racisme. Mais excusez-moi, monsieur de Boujela, alors je m'exprime peut-être très mal, mais pour moi, vous en êtes un beau de raciste. Hein, parce que pour nier, oui, exactement. Ouais,
David, faites attention à ce que vous dites, parce que je vous rappelle que le racisme est un délit. Depuis toutes ces années que Mourad Boudjelal est avec nous, je ne pense pas qu'on puisse l'accuser de racisme. Mesurez vos propos quand même, David. Je veux bien qu'on débatte.
Non, mais laissez-le parler, David.
Faites attention quand même à ce que vous dites.
David, allez-y, développez vos idées. Allez au bout de votre pensée et faites-vous plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est moi qui régale.
Monsieur Boudjelal a dit que le racisme anti-blanc n'existait pas. Hein, et pourtant, il y a tous des gens qui ont témoigné. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont témoigné. Hein, ils ont entendu des paroles en disant on va tuer du blanc. Donc, ce n'est pas du racisme.
David,
ça.
Tu crois qu'on t'a plus souvent dit sale blanc ou moins sale arabe, à ton avis, dans la vie? Explique-moi. À qui on a dit le plus souvent sale blanc ou sale arabe? À qui on a empêché l'entrée dans les boîtes de nuit? À qui on a discriminé sur des CV? Les sales blancs ou les sales arabes ou les sales noirs? Dis-moi, explique-moi. Est-ce qu'on parle de la majorité ou est-ce qu'on parle de la minorité? Voilà. Alors je suis sûrement pas. J'ai pas de racisme anti-blanc, c'est certain. Mais j'ai une espèce de racisme anti-crétin parce que là on y est.
C'est un très bon argument.
Ça montre une chose. C'est aujourd'hui, il y a quand même une exacerbation, une violence latente aujourd'hui dans la société sur cette question de la communauté, du racisme, de l'autre, de la tolérance.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut parler de tout. Mais évidemment, il y a des lois mémorielles, il y a des lois antiracistes qui font qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Et donc, je trouve normal que là-dessus, il y ait des lois qui encadrent un peu le discours, et notamment le discours qu'on peut avoir en public. Concernant l'immigration, enfin moi, il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire qu'on peut être pour l'immigration zéro, comme on peut être ouvrir les frontières, etc. Il y a plusieurs modèles et on peut discuter de tout. Oui. Et je pense que l'immigration, c'est comme le reste, il faut pouvoir contrôler les frontières et faire attention à qui vient chez nous. Et pourquoi il faut contrôler l'immigration? C'est parce que il faut avoir le temps d'accueillir et d'intégrer les personnes qui viennent chez nous pour leur expliquer à quel point notre culture est parfois différente de la leur. Et pour un Afghan qui arrive à Paris, si on prend pas le temps de lui expliquer, de l'initier à la culture française, etc., ça peut être extrêmement violent pour lui. Oui, le modèle français.
Je suis d'accord avec vous, mais là où on nous trompe, ce sont tous ces gens qui nous font croire que le problème de l'immigration va se régler à l'échelle locale, alors que c'est un problème mondial.
Mais bien sûr,
on peut rien régler à l'échelle d'un pays.
Il y a une élection importante en la matière.
Et Éric Zemmour, et je voudrais aller, qui nous font croire qu'ils vont régler
bien
tout
sûr.
À l'échelle locale.
Je suis totalement d'accord.
Le problème d'un Afghan qui vient immigrer chez nous, c'est pourquoi il vient immigrer chez nous, un Afghan.
Et je voudrais quand même ajouter une chose. Si ce problème, l'Europe, c'est pas pour lui taper dessus gratuitement, mais elle a fabriqué deux catégories d'étrangers. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, il y a le bon étranger, qui est l'étranger communautaire, qui a droit à peu près à la même chose qu'un national, et il y a l'étranger, comme on dit, extra-communautaire, qui est différent, et qui n'a pas les mêmes droits. Et ça, pour moi, c'est un problème, parce que soit on considère un principe qui est citoyenneté-nationalité, mais quand on commence à créer deux types de catégories d'étrangers, pour moi, là aussi, c'est un problème en tant que tel. Je ne comprends pas pourquoi un étudiant marocain qui fait ses études en France ne peut pas passer le CAPES en France parce qu'il n'a pas la nationalité française. Et je ne comprends pas pourquoi un étudiant qui vient d'un autre pays européen et qui n'a pas fait ses études en France peut passer le CAPES pour devenir prof. Parce que le CAPES, qui est le concours pour devenir professeur dans le secondaire, a une condition de nationalité, pas uniquement française, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, un Européen des 27, qui n'a jamais mis les pieds en France, mais qui a obtenu l'équivalent de son diplôme, peut passer le cap.
Il y en a beaucoup qui.
Mais pourquoi je dis ça, c'est théorique.
Et puis
non, c'est pas théorique pour une raison simple. Il y a plus de 5 millions d'emplois dans ce pays qui sont fermés sur des conditions de nationalité. Et donc on bloque ces gens-là. Aujourd'hui, on manque de profs. Il y a des tas de gens qui seraient peut-être nationalité
étrangère. Il y a beaucoup de médecins étrangers aujourd'hui. Voilà, qui
on en a besoin,
etc. Donc déjà, la question des emplois fermés et cette préférence nationale, elle pose un problème. Et deuxièmement, je trouve que c'est hyper dangereux, lorsqu'il y a une situation de délinquance ou autre, de ramener l'explication de ça à l'origine, la couleur, la confession, comme s'il y avait des gens qui spontanément étaient portés à ça. Et donc, et en plus, dans ce pays où il y a mille et un de mots de problème, désignés, comme d'habitude, les étrangers comme étant
la cause
de la chose, et pas les étrangers. Pour compléter ce que tu dis, il y a une partie de la communauté étrangère qu'on n'appelle plus par son pays d'origine, mais qu'on appelle par sa religion. Oui. Et on a tout globalisé à travers une religion, donc, qui est l'islam, qu'on dit les musulmans. Moi, par exemple, des fois, on parle de moi en disant je suis musulman alors que je suis athée.
Oui,
mais on dit.
Oui, mais souvent, les musulmans eux-mêmes.
On connaissait que chez les musulmans, le fait que vous soyez athée, ça ne doit pas passer très facilement non
plus.
Ça
passe pas toujours, oui. Mais après, c'est mon problème.
Non, mais je voudrais ajouter autre chose.
Je me mettrai à croire en Dieu. Comme disait Woody Allen, on arrêtera de croire en Dieu quand on arrêtera de mourir.
Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe vraiment, et parce qu'on parle de, on accuse l'immigration, mais en fait, j'ai un ami très proche qui a une société informatique, et il embauche des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, parce qu'ils ne trouvent pas sur le marché français des technico-commerciaux ou des ingénieurs qui sont capables de travailler dans sa boîte en France. Et il me dit, mais quand je parle avec eux de l'islamisme, etc., ils me disent, non, mais surtout résister en France, parce que nous, on a quitté notre pays, parce que justement, on a marre de supporter cette espèce de dictature plus ou moins
simple. L'intégrisme est nauséabond dans toutes les
religions.
Et par ailleurs, je pense qu'on a laissé se développer quand même en France, alors je vais lui dire du mal d'une certaine banlieue, une espèce de sous-culture anti-France, qui est encouragée par le trafic de drogue, par la petite délinquance, etc. On a essayé de développer cette sous-culture qui n'a rien à voir avec la culture des pays d'origine, ou notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. On a un sens de la famille. On respecte ses parents.
D'ailleurs,
on a un respect de l'autorité. Il y a des événements qui ont favorisé ça. Par exemple, qu'on ait pu tuer 1 million de personnes en Irak sous un mensonge et que personne ne dise rien. Ben, on s'est dit, ben, finalement, la vie d'un musulman vaut moins cher qu'une autre vie. Qu'aujourd'hui, on puisse tuer 30 000 personnes, dont 10 000 enfants, et que pratiquement tout le monde s'en fout. Ben, on se dit,
tout le monde s'en fout pas, ça crée
un fonds de commerce.
Ça
pour des gens
amalgames.
Qui viennent leur dire, regardez,
c'est pas
regardez,
vrai que tout le monde s'en
vous
fout.
Vous êtes sous-estimés et nous on va vous vendre une religion qui est pieuse et qui va remettre en valeur.
Ouais, enfin, je suis pas d'accord avec vous parce que je trouve que sur Gaza, sur Israël, enfin, bon, il y a évidemment des débats extrêmement animés, mais on dit les choses.
On a inventé le crime moral.
Sur le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas beaucoup de nuances.
On a inventé le crime moral. Voilà.
Moi, personnellement, on a traité de ce conflit très rapidement après la tragédie du 7 octobre, qui est un crime contre l'humanité, à mon sens, qui est un acte terroriste extrêmement grave.
Là-dessus, on est d'accord.
Et j'ai été en Israël, j'ai été à Berry auprès des victimes et des survivants de ce massacre dans ce kibboutz israélien. Et le lendemain, j'ai été dans les territoires occupés pour dénoncer les violences exercées par les colons à l'égard des fermiers palestiniens et comment on confisquait leurs terres, etc. Voilà, c'est pas pour autant que je revois dos à dos le Hamas et Israël. D'un côté, il y a un État, et de l'autre, il y a une organisation terroriste.
C'est une vérité, que c'est une abomination, c'est une vérité. Et en aucun cas ne peut justifier le massacre de personnes à côté.
Lies qui est avec nous, qui s'appelle de l'Essonne. Bonjour Lies.
Bonjour.
Bonjour, vous voulez réagir vous aussi à ce qui est arrivé à Bernard Lavillardière?
Oui, voilà, je voulais réagir. Bonjour tout le monde.
Vous êtes chauffeur VTC?
Exactement. Donc
vous allez retrouver
Bernard. Vous étiez à Roissy hier matin.
Du côté de Roissy.
C'était moi.
C'était donc vous.
Non. Je suis contre les insultes. Mais au bout d'un moment, il faut que M. de la Villardière, il se remette en question dans ses reportages. Au bout d'un moment, il fait que des reportages à charge. Que ça.
Et parce que c'est l'audience. C'est enquête exclusive. Hein. Mauvais esprit, comme je le disais tout à l'heure. On fait la gros mafia en Italie dimanche.
Allez-y, Elias.
Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi ne pas changer un peu de...
Mais il y a d'autres émissions pour ça. Ouais, non, là, je rentre d'Équateur, on va faire un film sur le narcotrafic en Équateur.
Yes, c'est le format de l'émission.
Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est que par le prisme par lequel il attaque des sujets pour faire de l'audience, parce qu'effectivement.
Mais c'est pas pour faire de l'audience, c'est. Non, mais pour faire de l'audience, pardon.
Tout va mal. Vous pouvez aujourd'hui donner une image.
Mais je n'arrête pas. Attendez. Mais je n'arrête pas de mettre en valeur les musulmans qui se battent notamment dans le sud.
Pourquoi, justement,
des trains qui arrivent à l'heure.
Yes, pourquoi est-ce que vous vous sentez touché et blessé? Pourquoi? Dites-nous.
Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis kabyle. Je suis algérien, je suis kabyle.
Ah, les kabyles m'aiment bien, en général.
Oui, non,
sauf
mais...
un. On l'a.
Non,
on l'a, apparemment.
Monsieur de la Villardière, si je vous ramène en Algérie, vous allez...
Mais je ne peux pas y aller, j'ai pas eu de visa. Oui. Voilà, je suis interdit.
Imaginons, vous pouvez y aller. Vous allez y aller, vous allez faire un reportage que à charge. Alors que l'Algérie, c'est humainement parlant... C'est une solidarité, c'est le peuple, il est merveilleux. Mais ce que vous allez
c'est
faire...
C'est ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une culture dans ces pays.
Sur le gouvernement,
c'est dommage qu'on ne l'ait pas importé en France.
Oui, non, mais après, le gouvernement, c'est une chose. Mais voilà. Voilà, le gouvernement, c'est clair, c'est une chose. Mais le peuple est... C'est complètement différent de ce que vous allez faire dans le reportage.
Et j'ai manifesté place de la République aux côtés d'opposants algériens, parmi lesquels beaucoup de kabyles, puisque comme je n'ai pas aller en Algérie, ben j'ai été dans cette manifestation et je vous assure que les gens étaient extrêmement accueillants et contents que je sois là.
Nous, on est un peuple très accueillant. Nous aussi, on est contre le gouvernement, bien sûr. Mais voilà, mais c'est moi je vous parle de l'ensemble de vos reportages, c'est que vraiment à charge.
Oui, mais après
quoi, oui, j'ai fait un film sur l'Iran.
S'il fait un reportage pour dire les Algériens sont gentils en termes d'audience, ça va être limite quoi.
Je peux poser une question à Lies.
Mais c'est pas le sujet en plus.
Lies, vous allez souvent à Roissy.
D'accord.
Je vais tout le temps à Roissy, Orly.
Bon, il y a quand même un problème de ces faux taxis. C'est vrai que quand on arrive, on sait plus qui fait quoi, qui t'autorise à être là, qui n'est pas.
À Roissy, l'aéroport de Miami, c'est pire.
On y va beaucoup moins, Miami, pardon.
Du VTC déjà. Combien de faux chauffeurs sont dedans? Combien de faux comptes sont loués? C'est ça que vous.
Donc c'est le Far West.
Mais personne, on le dit, on fait que ça, mais personne ne fait rien. Après, il y a la police des taxis et des VTC, ça s'appelle les boeurs.
Oui,
ils vont vous contrôler pas pour essayer de chercher les faux taxis et les faux VTC. Ils vont chercher à mettre des amendes. En fait, vous voyez, prendre un client hors la loi, oui, ça ils vont le faire aussi, mais vraiment ils vont chercher à mettre des amendes, pas à traquer les faux taxis ou d'accord. Les faux VTC. Et on est rempli de ça dans le VTC. Hein.
Oui, mais enfin, il faut faire le ménage dans la profession.
Que ce soit des faux taxis, on s'en fout. C'est pour ça que
merci.
Qui insulte quelqu'un. Bah,
non, je suis désolé, la faux taxi c'est un problème parce qu'il y a
oui,
des gens.
Enfin, le problème c'est que
je veux dire, des chauffeurs taxi, taxi
c'est pas si faux taxi. On n'a pas interpellé quelqu'un lorsqu'il descend d'un avion pour le traiter de raciste en face à face. C'est stupide.
Voilà, mais c'est stupide.
Si
on éloignait tous ces escrocs, je pense que l'ambiance serait peut-être plus sympathique.
Aujourd'hui, tu as des taxis qu'ils appartiennent à des sociétés ou qu'ils soient artisans ou des VTC, les taxis qui payent plus. Des loyers, bah oui. Qui payent des plaques, qui leur coûtent une blinde,
se sont pris
et le manque à gagner, c'est à cause des escrocs aujourd'hui que l'on voit devant les aéroports.
Ils viennent faire la retard à l'intérieur de l'aéroport.
On a fait deux enquêtes exclusives là-dessus. Je rappelle, c'est une émission qui existe depuis 19 ans d'ailleurs. Non, mais parce que. Je rappelle, c'est une émission qui existe depuis bientôt 20 ans. Que je suis pas le seul, je suis évidemment présentateur et co-rédacteur en chef, mais c'est une émission avec une chaîne qui me soutient, etc. Donc c'est pas moi, c'est pas les caprices de Bernard de la Villardière à travers la planète, quoi. C'est une émission qui est encadrée avec un directeur des programmes, un directeur d'information qui s'appelle Vincent Régnier, et donc on fait extrêmement attention à la manière dont on traite certains sujets.
Et le prochain numéro,
sujets.
C'est sur quoi?
Le prochain numéro, c'est sur précisément l'agro-mafia, dimanche.
Si tu suivais, tu saurais.
Et un mot sur l'Afghanistan. Pour vous parler de ce livre qui s'appelle Résistance Renaissance, qui a été co-écrit par Amida Aman, Sophia Aram, Patrick Cohen, etc., dans lequel j'ai mis une petite contribution, et qui est au profit des femmes afghanes. Elles sont 28 millions, qui sont évidemment interdites d'école, interdites d'université, interdites aujourd'hui de travailler même. Et donc c'est un... Achetez-le, parce que c'est un livre dont les revenus vont aller à l'association Radio Begum. Bravo. Ils communiquent auprès des femmes afghanes pour leur apporter un peu de culture. Et je crois savoir que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce n'est pas d'islamophobie, là, ce que je viens de dire.
Non,
d'accord. Vous voyagez beaucoup, Bernard. Ça va nous permettre de faire la transition sur notre prochain sujet. Est-ce qu'il faut faire comme à Venise, instaurer des taxes dans les lieux les plus fréquentés ou pas? À partir d'aujourd'hui, c'est 5 euros. Il faut s'acquitter d'une petite taxe de 5 euros pour passer la journée à Venise.
Tout ce qui peut contribuer à ne pas transformer Paris en Venise, en espèce de musée vivant, mais sans que les Parisiens puissent y vivre vraiment. Enfin, moi, quand je vais à Venise, enfin, il faut savoir sortir du centre-ville aussi. Hein. Il y a encore des beaux quartiers de Venise où on rencontre des Vénitiens. Et tout ce qui peut contribuer à ne pas faire de cette capitale une espèce de musée où finalement ce sont les actifs qui peinent et qui payent, etc. Et ce sont les chômeurs et les touristes qui profitent de la capitale. Et nous, on a l'impression d'être exclus. Jeudi, moi, je suis au centre de la capitale. Et donc, j'en souffre. Évidemment, j'en souffre.
Merci Bernard de la Villardière d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Justement, prochain sujet de discussion, c'est notre GG 7 et match. Doit-on faire payer pour entrer dans les villes touristiques? Oui pour Frédéric Farah et Julie Martinez, non pour Mourad et Olivier. Et on sera à Venise avec l'une de nos envoyées spéciales pour comprendre ce qui se passe sur place. À tout de suite.
Génial.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec les grandes gueules en toute franchise. Frédéric Farah, Julie Martinez, Mourad Boudjelal. On va parler maintenant des taxes pour sauver les villes les plus touristiques.
RMC.
GG, 7 et match.
À Venise, par exemple, il vous faudra un QR code. Alors, en fait, ce sera le signe que vous avez bien payé 5 euros pour entrer dans la cité des Doges. On va comprendre comment ça se passe. C'est Caroline Philippe qui est sur place pour RMC. Caroline, alors concrètement, comment ça se passe du côté de Venise depuis aujourd'hui? Bonjour Caroline.
Bonjour les GG. Ça y est, les premiers passes sont scannés juste derrière moi. Le ticket d'entrée est officiellement requis depuis 2 heures. Alors je me trouve à la gare de Santa Lucia, à l'entrée de Venise, où une dizaine de contrôleurs s'affairent pour vérifier que les touristes sont en règle, mais aussi pour expliquer le dispositif. C'est le premier jour, donc l'heure est à la pédagogie, on va dire. Ce ticket obligatoire coûte 5 euros, vous le disiez, pour les touristes d'un jour. Mais si vous avez une réservation d'hôtel, ce ticket est gratuit, car l'objectif de la municipalité, c'est ce que m'expliquait ce matin tôt l'adjoint chargé du tourisme à la mairie de Venise, c'est pas de dissuader les touristes internationaux de venir découvrir ou redécouvrir Venise, c'est simplement de mieux répartir l'affluence. Ce ticket, il n'est pas obligatoire tous les jours de l'année. En 2024, 22 dates ont été sélectionnées par la mairie de Venise, des jours particulièrement fréquentés comme aujourd'hui parce que c'est férié en Italie et en plus il fait très beau, donc les gens se décident un peu à la dernière minute de venir passer la journée à Venise.
Mais comment les touristes accueillent-ils cette taxe alors, Caroline ?
C'est un accueil plutôt mitigé et qui dépend surtout du portefeuille. C'est ce que j'ai constaté. Évidemment, personne n'aime se retrouver coincé au milieu de la foule. Personne n'aime se retrouver au milieu d'une ruelle bondée ni attendre pour une place en terrasse. Pour autant, certaines familles me disaient que c'est pas 5 euros qui vont faire la différence. Quand on a les moyens de venir à Venise, de payer l'avion, de payer l'hébergement, on n'est plus à 5 euros près. La seule contrainte, c'était de penser à réserver ce petit ticket. Mais il y a aussi des familles plus modestes qui craignent que le tourisme devienne un luxe. Hier, j'ai rencontré une aide-soignante, Sophie, une aide-soignante alsacienne. Elle était en colère parce que pour elle, 5 euros, c'est un café, c'est une glace en moins dans sa journée de visite. Et au-delà du prix, c'est le principe qui gênait cette femme parce que payer pour voir un monument, d'accord, payer pour entrer dans un musée, d'accord, mais pas pour déambuler dans une ville, pas pour simplement se balader. Après, quand on y repense, elle a fait le choix justement de venir hier et pas aujourd'hui. Donc, elle a finalement créé exactement ce que je souhaite la municipalité, des reports pour éviter le surtourisme.
Mais Caroline, quand vous partez comme ça à Venise en reportage, c'est décompté sur vos jours de congé ou vous êtes payé? Comment ça se passe?
je vous assure que je suis payé.
Je suis payé.
Mais je peux vous ramener des pâtes ou quelque chose si vous voulez pour me faire pardonner. Je sens la jalousie.
Merci Caroline, merci de nous avoir donné toutes ces précisions en direct de Venise. Merci Caroline.
Avec plaisir.
Frédéric, tu es pour cette taxe, toi, avec Julie Martinez. Pourquoi?
C'est le clan des nantis.
Mais tu sais,
c'est seulement.
C'est tout. Ouais,
voilà. Donc, alors, et qui excuse?
Laissez-le parler. Alors, il va vous expliquer.
Je vais défendre ça en tant que laxiste, nanti, gauchiste.
Allez.
Et pour l'immigration. Donc voilà. Donc maintenant que tout ça a été dit, je peux attaquer mes arguments.
Bonne chance.
Merci. Alors.
Buona fortuna.
Grazie mille. Sono pronto a continuare.
45 secondes.
Bon, voilà.
Vite.
Alors, pourquoi? Parce que je pense que ces villes, Florence, Venise, doivent trouver un moyen de concilier à la fois la possibilité pour les gens qui y vivent, y travailler d'un côté, et de l'autre côté, un tourisme, un surtourisme problématique. D'autre part, que ça soit pour l'équilibre de la ville, que ce soit même d'un point de vue écologique, et c'est important qu'on pense à un tourisme qui soit un peu vraiment des villes éco-durables, hein, si je puis dire, qui tiennent compte de ces éléments, c'est essentiel de réguler les flux. D'un côté, on se plaint, on se dit « Ah, il y a trop de gens qui viennent dans nos pays, c'est épouvantable et autres. » Lorsqu'il s'agit de préserver des villes et de faire une petite taxe, vous voyez bien quand même, c'est intelligent en Italie. C'est certains jours, c'est pas tout le temps. Si vous avez une réservation, je pense qu'on doit trouver un équilibre pour permettre à ce que ces villes ne soient pas dévorées par un tourisme de masse.
Je peux poser une question.
Oui.
Tu crois vraiment, sincèrement, que ça va dissuader, parce que si j'y comprends bien, c'est qu'il y a trop de touristes à Venise et donc il faut réduire.
Non, c'est pas suffisant.
Il faut réduire. Donc tu crois que les 5 euros, ça va dissuader des gens qui viennent du monde entier pour visiter Venise, parce que les gens du monde entier veulent voir Venise, veulent voir la Tour Eiffel à Paris, veulent aller un jour à New York. Enfin, et c'est pour ça d'ailleurs le problème du surtourisme, c'est que, et comme le dit très bien Jean-François Rial dans Le Parisien ce matin, notre copain patron de Voyageurs du Monde, il dit le surtourisme, c'est l'ennemi du tourisme, parce qu'effectivement, ça détruit la vie locale, ça nuit à l'expérience du voyage. Mais pardon, mais on favorise cela. Prenons le centre-ville de Paris, et Bernard Lavillardière avait raison. C'est-à-dire que tout est fait par la municipalité pour faire du centre-ville de Paris un futur Venise. Le Airbnb, on enlève les voitures, on interdit aux gens en gros de venir travailler.
Là, ce qu'il y a avec Venise.
On interdit aux gens de venir commercer. D'ailleurs, les commerces de bouche disparaissent, les écoles d'ailleurs se vident, les familles fuient. Et donc un jour, moi je vous dis dans quelques années, le centre-ville de Paris, ça sera payant. Il faudra payer 5 euros. Mais en fait, le problème c'est pas de faire payer, c'est
si t'as une voiture, c'est payant.
Que les
déjà.
Autorités qui gèrent ces villes ne transforment pas ces villes en parc d'Euro Disney.
J'ajouterai un truc.
Alors, nous sommes 30 000 fois d'accord. 5 euros, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. C'est pas le point d'arrivée. Oui, il faut lutter contre le phénomène Airbnb qui pose un problème. Dans le quartier de l'Alfama à Lisbonne, qui est un quartier historique, 60 à 70% désormais des habitations ont vocation et servent à du Airbnb, ce qui est un vrai problème. On a laissé la spéculation immobilière à Lisbonne partir dans tous les sens depuis 2011, qui fait que les Lisboètes peuvent même plus vivre là. Et je pense que, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut combattre les villes musées.
Il faut que les villes restent des villes vivantes,
avec du bruit,
qui travaillent, on se déplace,
et donc,
on bosse.
Toutes les mesures
avec des cambriolages.
Sinon, vous allez à la campagne.
Voilà, toutes les mesures sont bonnes à prendre. 5 euros, ce n'est qu'un tout petit élément.
Non, mais là, pour
Venise, que je connais bien, parce que je suis allé de nombreuses fois dans ma vie, c'est vrai, et je ne vais pas m'en plaindre, parce que je suis le touriste, c'est irrespirable, et je me mets à la place des Vénitiens qui y vivent. Je pense que des gens comme moi, ils en ont marre aussi.
Mais il y a plusieurs. Enfin, si tu enlèves le tourisme à Venise, il reste de l'eau. Hein.
Non, mais ce qu'il y a à Venise, c'est qu'il y a quand même 50 000 Vénitiens. Il y a 50 000 Vénitiens et 30 millions de touristes. Alors, on sait les critiques de l'UNESCO, on les entend depuis des dizaines d'années. On sait que le changement climatique plus le tourisme de masse, ça contribue à détériorer quand même ce bijou pour le patrimoine mondial de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a cette taxe de 5 euros. Alors, là où je trouve ça un peu aberrant, c'est qu'effectivement, ça va peser dans le portefeuille des plus pauvres qui, eux, veulent pouvoir voyager au même titre que les plus riches. Et c'est en ça que c'est pas suffisant. Il faut pouvoir prendre des mesures beaucoup plus fortes, avec des quotas par exemple de visiteurs par jour, avec l'interdiction des gros bateaux qui arrivent comme ça sur Venise, qu'on voit déverser, qui sont plus gros que la Santa Maria qu'on voit en fond. C'est complètement scandaleux, il faut responsabiliser les gens, mais pas sur le portefeuille des plus fragiles. Et c'est là où je
crois
que
ça va dissuader des gens de venir à Venise, c'est ça?
5 euros, ça peut être quelque chose dans le portefeuille d'une famille.
Non,
parce qu'il y a énormément d'exceptions, donc c'est aussi en ça que cette mesure est bullshit. Excusez-moi.
À 5 euros près.
Mais pas forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes italiens qui se permettent de faire en fait de Bologne jusqu'à Venise le petit trajet en train. Et 5 euros dans le portefeuille d'une famille, deux parents, quatre enfants au-dessus de 14 ans, parce que l'exception c'est en dessous de 14 ans, c'est pas applicable. Et ça a un poids. Et c'est là en ça où je trouve cette mesure, cette taxe. Nécessaire, c'est un point de départ, mais il faut penser à d'autres mesures qui ne font pas la différence entre les différents budgets des différents touristes qui, en fait, ont tous, au même titre, le droit de visiter ce bijou. Mais il faut pouvoir réglementer ça.
On avait fait les calanques payantes, une calanque, notamment du côté de Marseille, la calanque du Sugiton.
Moi, je pense que cette histoire de 5 euros, ça n'a rien à voir avec la protection ou le surtourisme. C'est uniquement pour rentrer du pognon dans les caisses de la ville.
Oui.
Point barre, ça s'arrête à ça. Alors, ils ont trouvé un bon alibi, habillé, parce qu'ils vous expliquent grosso modo qu'ils mettent les 5 euros le jour où il y a du monde. Ben oui, si tu les mets le jour où il n'y a personne, tu ne rentreras pas grand-chose. Donc, c'est mieux de le mettre le jour où il y a du monde. Effectivement, ils ont raison, c'est bien vu économiquement. Mais surtout, Venise, je veux dire, si demain je décide d'investir à Venise, un commerce, par exemple, je sais très bien que je vais vivre du tourisme et que je vais souhaiter qu'il y ait le tourisme le plus important possible. Et je trouve que c'est un impôt anti-pauvre. Parce que quand on voit le prix des hôtels à Venise, vous allez sur Booking, regardez le prix des hôtels à Venise, et on nous dit, ceux qui ont une réservation d'hôtel ne paieront pas les 5 euros. Mmh. Ça veut dire que ceux qui vont à Venise pour la journée, c'est les pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un hôtel, ou alors ils vont se le payer à... Et eux, on va les faire payer.
C'est, pour ça
c'est un véritable impôt anti-pauvre.
Et alors, on va regarder justement.
Et je suis surpris et déçu de que Farah défende cette proposition.
Faut-il faire payer l'entrée des villes
touristiques? Voilà.
Faut-il faire payer l'entrée des villes touristiques ou non, ou non? Alors, qu'est-ce qu'est le résultat final? C'est un non à 61%. Et pour aller à Venise, il faut prendre un avion, normalement. Enfin, c'est le mieux.
Oui.
Encore faut-il en avoir. Donc, dans un instant, on va parler de la grève des aiguilleurs du ciel. Est-ce que sont les nantis des aiguilleurs du ciel? À tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.